en tombant à genoux. Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique, il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. En réponse, Jésus s'exclama, en gens incrédules et pervertis, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça et le démon s'éloigna, et de ce moment l'enfant fut guéri. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui demandèrent en privé, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ?» Jésus leur dit, « C'est à cause de votre manque de foi, car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. » Mais cette espèce de démon, on ne l'a fait sortir que par le jeûne et l'oraison. Et tandis qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, în nume de Père et du Fils et du Saint-Esprit, amin. Très vite, je vais parler en français pour éviter les traductions et je vais essayer d'être assez court pour ne pas retarder avec la divine liturgie parce que nous avons le mariage d'après. Je vous ai préparé dans la continuation des l'homélie de dimanche dernier. Je vous ai préparé encore des autres textes qui nous parlent de l'inspiration de la Bible et de l'Évangile, des Évangiles, et qui nous montrent une relation très intime entre Dieu et les prophètes, entre Dieu et les apôtres, entre Dieu et tous les auteurs de la Bible et de tout ce qui signifie les livres saints de la Bible, y compris le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Vous avez entendu, j'espère, vous avez fait attention à l'apôtre qui est élu au milieu, au centre de l'Église, par les chantres. Ça fait partie d'une... Je le nommerai une lamentation de l'apôtre Paul un peu, parce qu'il donne un peu la sensation qu'il est presque découragé par le fait qu'il a souffert tout le sort de mal pour dans son démarche de la prédication de l'Évangile, dans son démarche de la présentation de ce qu'il a vu, de ce qu'il a reçu des apôtres et du Seigneur sur le chemin de Damas. Donc, vous avez entendu un peu son presque désarroi quand il parle, voilà, je suis devenu fou pour vous, je suis devenu le dernier de tous les hommes qui sont sur la terre, et j'ai fait tout ça et j'ai souffert tout ça pour la parole, pour la prédication de parole du Seigneur. Et qui peut se comparer avec l'apôtre Paul? Qui peut se comparer avec lui qui a tout fait pour répandre la bonne nouvelle, comme je vous ai dit la dernière fois, la bonne nouvelle, l'évangile du Christ? Mais revenons à ce que je vous ai donné, quelques versets qui nous parlent de comment Dieu parle avec l'homme. Tout d'abord, je voudrais vous lire le premier chapitre de l'épître aux Hébreux, un épître assez consistant, si vous avez l'intérêt de la lire au Nouveau Testament, ça se trouve vers la fin du Nouveau Testament, parmi les dernières épîtres écrites par l'apôtre Paul aux Hébreux, aux communautés qui étaient communautés chrétiennes qui étaient constituées en phase incipiente, surtout des Hébreux. Voilà qu'est-ce qu'il dit dans le premier chapitre, les versets 1 à 3. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois à nos pères dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils, qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé le monde. Donc vous voyez les deux images que l'apôtre Paul nous met en face. Avant la venue du Christ, Dieu parlait aux hommes par les prophètes. Il avait la conscience que les écritures des prophètes ne sont pas des simples écritures, mais qui sont vraiment la parole de Dieu qui est adressée aux prophètes. En plusieurs temps, en plusieurs reprises, dit l'apôtre Paul, et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois aux prophètes. Vous voyez la conscience, il commence très abrupte. L'épître aux Hébreux avec ça, avec la conscience que tout ce qui a été parlé aux prophètes, et j'espère que vous connaissez un peu qui sont les prophètes de l'Ancien Testament, à partir de Josué et jusqu'à Zacharie et les autres prophètes, cherchez-le dans l'Ancien Testament et vous allez voir qu'il y avait dans la conscience du peuple juif, du peuple hébreu, cette conscience très forte que ce n'était pas une invention humaine ce qu'il avait écrit dans leur prophétie, mais que c'était vraiment la parole de Dieu qui leur a parlé. Donc Dieu a parlé avant la venue du Christ, il a parlé aux prophètes dans leur prophétie. Mais, dit l'apôtre Paul, dans la période finale où nous sommes, nous a parlé par son Fils. Remarquez la différence. Avant, il parlait par intermédiaire, maintenant il parle lui-même. Parce que le Fils est Dieu même. Il envoie son Fils, vrai Dieu, de vrai Dieu, vraie lumière, de vraie lumière, pour parler directement aux hommes. Et l'apôtre Paul, il est très conscient que sa parole qu'il adresse aux Hébreux, aux Romains, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, les paroles que vous entendez chaque dimanche ici, lues au milieu, dans ce moment liturgique que nous nommons la lecture de l'apôtre, il était conscient que ces paroles étaient les paroles inspirées et les paroles que le Christ lui-même les avait laissées aux auteurs saints. Donc, l'Évangile, c'est la parole du Christ, après l'apôtre Paul, et après notre foi aussi. L'Évangile est la parole du Christ. Et nous nous demandons parfois sur quoi est-ce que notre foi est-elle basée. Je vous ai posé cette question la dernière fois aussi, parce que nous, parfois, nous doutons beaucoup sur les livres de la Bible. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, si c'est l'œuvre de l'Église, la Bible, si c'est vraiment quelque chose qui nous est resté depuis les temps de la venue du Christ, ou c'est une chose inventée. Il y a plusieurs questions qui se posent au regard de la Bible. Mais je vous conseille de lire la Bible par elle-même. Et de faire un tout petit peu de confiance, comme dit l'Évangile d'aujourd'hui. Si vous aviez un peu de foi, pas plus grande qu'un grain de... Si vous avez la foi assez petite, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas nous douter. Nous n'avons pas le droit de nous douter sur la Bible. Parce qu'il nous révèle quelque chose, et je dirais plus que ça, il nous révèle quelqu'un. Et elle nous révèle Dieu même. mais il faut plonger un peu dans la lecture de la Bible. Voilà, parce qu'on a parlé du fait que l'apôtre Paul, il dit, le Christ, Dieu nous a parlé par son Fils, par le Christ. Qui est ce Christ? Qui est ce Christ? Vous le confessez chaque fois dans nos credos, chaque dimanche. Vrai Dieu de vrai Dieu, vraie lumière de vrai Dieu, de vraie lumière. Et lisons ensemble un peu la description que l'apôtre Jean, cette fois-ci, fait sur l'incarnation de Christ. Voilà, c'est d'une poésie et d'une théologie extraordinaire. Au commencement, dit l'apôtre Jean, était le Verbe, Logos en grec, le Fils. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe même était Dieu. Le Christ même était Dieu, dit l'apôtre Jean. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui. C'est impressionnant. Tout fut par lui. Par qui? Par celui de qui l'apôtre Paul parle, qui nous a parlé. Par le Christ, par le Logos, par le Verbe incarné du Christ. Tout a été fait par lui. Et c'est lui qui a fait tout, il nous parle. C'est extraordinaire. C'est lui qui a fait tout, c'est lui qui est au commencement, avant tous les siècles. Avant tous les siècles, avant que tout existe, qui existe depuis l'éternité, le Logos éternel de Dieu, il nous parle. Parce que c'est par excellence la qualité du Logos, de la parole, du Verbe. C'est la qualité par excellence de communiquer, de parler aux autres. Et l'apôtre Paul, il dit, avant, il nous a parlé par les prophètes, mais maintenant, c'est lui qui nous parle. C'est lui-même qui nous parle. Et rien, dit l'apôtre Jean, rien, dans le deuxième... cité que je vous ai mis sur les feuilles, Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Rien de ce qui existe n'existe pas sans lui. Sans qui? Sans celui qui nous parle dans l'Évangile. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brûle dans les ténèbres, brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est lui la lumière du monde. C'est le Christ, la lumière du monde, le Christ qui nous parle, qui nous a parlé par les prophètes et qui nous parle maintenant par son Fils. Et regardez qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Jean après. Donc, il commence son évangile avec la présentation du Verbe. C'était qui le Verbe? C'est la deuxième personne de la Trinité, si vous voulez. Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils, qui existe depuis toujours avec le Père, par qui tout a été fait, comme dit le credo d'ailleurs, notre credo, mais qui, attention, est le Verbe, s'est fait chair, s'est incarné, anthropisé si vous voulez, anthropos en grec ça signifie homme, il devient homme, il a habité parmi nous, qui? Celui qui était avant tous les siècles, et par qui tout a été fait, habite parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Jean, il était conscient qu'il a vu la gloire de Fils de Dieu. Cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. La grâce du Fils, qui est la grâce du Père, et la grâce de la Sainte Trinité. Mais il y a des choses très théologiques dans lesquelles on ne va pas entrer maintenant parce que ça fait tout. On peut parler des jours entiers, des jours entiers. La chose sur laquelle je veux insister, c'est ça. Que Dieu s'est incarné, s'est fait homme, il a parlé aux gens. Il a laissé un message aux gens. Il a laissé la bonne nouvelle aux gens. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Et qu'est-ce qu'il dit encore, le premier chapitre de l'Évangile de Jean, verset 18, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. C'est ça qu'on fait, nous, que nous faisons, nous, chaque dimanche. Nous recevons grâce sur grâce, chaque dimanche, que nous nous mettons devant le Seigneur. Que nous nous communions avec le Christ même, avec le Verbe incarné. Avec le Verbe incarné. Et j'insistais plusieurs fois, ce n'est pas la peine d'insister encore aujourd'hui, mais soyez conscients que dans l'Eucharistie, c'est le Christ, c'est le Verbe incarné du Christ, et que nous communions avec sa nature humaine ressuscitée. que dans la liturgie, la divine liturgie, c'est ça qu'on fait. On se met devant celui qui existe devant tous les siècles, devant, avant l'éternité, avant que l'éternité même existe, disent les pères, dans un limbage un peu paradoxal. Le Dieu existe avant l'éternité. On ne peut pas le soumettre au temps, aux catégories temporelles. Il existe depuis toujours, mais en même temps, il s'est fait homme, et nous avons la chance de communier avec lui, Il nous engendre, si je peux dire comme ça, on devient des fils. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière royale de la divine liturgie? Notre Père qui est dans les cieux, notre Père. Parfois, je reçois des remarques, Père, pourquoi est-ce que nous nous adressons aux premières personnes, à Dieu, notre Père, toi? Pourquoi est-ce qu'on dit toi et on dit pas, on n'utilise pas la deuxième personne, la personne de respect, pourquoi on se vouvoie avec Dieu, pourquoi est-ce qu'on se tutoie avec Dieu? Mais parce que c'est notre Père. Avec un papa, on ne peut pas se vouvoyer. C'est assez intime, son rapport avec l'homme, qu'on lui dit tu. On dit tu à Dieu. On se prosterne devant toi, on te demande, Kyrie eleison, fais-nous miséricorde. C'est toujours à la première personne. Parce que c'est intime, parce que c'est lié, parce qu'il s'est fait chair, parce que le Verbe, il est venu, il s'est révélé. Et ça, avec la révélation, c'est une autre histoire concernant les icônes. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de peindre les icônes du Christ, surtout parce qu'il s'est incarné? Parce que nous l'avons vu, dit l'apôtre Paul. Parce que nous avons vu sa gloire. Parce qu'il était touché par les apôtres. Parce qu'il a laissé des témoignages aux apôtres. Parce qu'il a tout fait pour accomplir sa mission. Quelle mission? Ça sonne un peu bizarre le terme, mais sa mission, c'est quoi là? C'est la déification de l'homme. Passons à notre texte que j'aime beaucoup. Ça se trouve cette fois dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode. J'espère que vous connaissez un peu l'histoire de ce livre et pourquoi est-ce que les choses sont passées comme elles sont passées, parce que le peuple juif voulait sortir de l'Égypte. Il était esclave, ils étaient esclaves aux Égyptiens, aux Pharaon. Il sort de l'Égypte sous la protection de Moïse. Il y a toute une histoire, il n'y a pas le temps de vous la raconter maintenant. Mais il y a plusieurs théophanies de Dieu. Théophanie, qu'est-ce que signifie théophanie? Ça signifie que Dieu se montre, que Dieu se fait visible. Et parmi eux, parmi toutes ces sorties, j'ai retenu une seule chose. On rencontre entre le Seigneur, entre le Verbe, pas encore incarné, parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Écoutez la beauté de la phrase. Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme on se parle entre des amis. Le Seigneur parla à Moïse face to face comme on se parle entre des amis. C'est extraordinaire. Dieu parle comme à Moïse, comme à un ami. Voilà la réponse de nos questions sur la validité de la Bible et sur l'autorité de la Bible. C'est ça, que Dieu a parlé aux prophètes, que Dieu a parlé à Moïse. Ils n'étaient pas tous fous pour inventer tout ça. L'apôtre Jean, il n'était pas fou de dire, voilà, nous avons vu la gloire du Seigneur. Qui a la folie de commencer à écrire des choses assez hautes, assez parlantes, sans avoir l'expérience de ces choses? Sans avoir la certitude de ces choses. Qui d'entre vous, par exemple, pourrait commencer maintenant à écrire de nouveau ces choses qui existent ici? Personne, je vous assure. Personne ne pourrait pas, parce qu'on ne peut pas inventer les choses. Mais les prophètes, ils ont vu ça. Ils ont touché ça. Et le Dieu parlait comme à qui? Comme à un ami. Comme un ami parlait à Moïse. Comme un ami. Et c'est comme un ami, comme entre des amis, qu'il parle au sein d'aujourd'hui, parce que Saint Grégoire Palamas, il parle toujours, si, il insiste sur ça presque obsessivement, Si dans l'Ancien Testament, où le Christ n'était pas encore venu, si dans l'Ancien Testament, Dieu parlait avec les prophètes comme avec des amis, comment dans le Nouveau Testament, quand le Christ est venu et qu'il a tout fait pour nous sauver, comment nous parlerait-il plus avec les saints de la grâce, avec ceux qui sont sanctifiés leur vie? Comment n'existerait pas cette relation entre Dieu et les saints du Nouveau Testament? Et voilà, nous avons des témoignages que la grâce de Dieu a pénétré la vie de saints et que la grâce de Dieu pénètre la vie de chaque chrétien, pas seulement la vie de saints. Comment nous pourrions nous partager beaucoup plus la grâce de Dieu et la relation intime avec Dieu que les prophètes, par exemple? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que la grâce, la loi du Nouveau Testament, qui est la loi de la grâce, est beaucoup plus supérieure, est beaucoup plus intime, et que la relation de Dieu maintenant est ouverte, beaucoup plus ouverte, malgré le fait que l'homme reste touché par le péché, malgré le fait que l'homme continue à tuer l'un et l'autre, se tuer entre eux, malgré les guerres, malgré les maladies, malgré tout ça, Dieu communique infinitivement plus avec l'homme, parce qu'il ne demande pas, il ne lui donne pas la paix de ce monde. Rappelez-vous que le Christ dit dans l'Évangile: je ne suis pas venu pour vous donner la paix, et en même temps il donne la paix. Je ne suis pas venu donner la paix dans ce monde, mais je vous donne la paix du monde d'ailleurs, la paix du monde du royaume. Et pour revenir à ce que j'avais un plan de vous présenter, 17e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, 17e, donc le dernier verset que je vous ai mis sur les feuilles, le verset 3. Regardez un peu aussi la beauté de cette phrase. Or la vie éternelle, qu'est-ce qu'il y a à la vie éternelle? On se demande toujours, qu'est-ce qu'il y a à la vie éternelle? Il n'y aura jamais une vie éternelle. Qu'est-ce que les prêtres nous parlent toujours de la vie éternelle quand nous avons beaucoup de problèmes ici, sur le monde? Voilà qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Parfois, il y a des gens qui disent, l'Église nous dit de ne rien chercher. Croyez et ne cherchez pas. Voilà qu'est-ce qu'il dit l'Évangile. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils te cherchent, qu'ils te cherchent. Qu'on cherche le Seigneur, c'est ça la vie éternelle. Mais quel Seigneur il faut chercher pour revenir au début de mon homélie? Quel Seigneur il faut chercher? Le Verbe qui existait éternellement avant toute l'éternité. C'est ça le Dieu qu'il faut chercher. Le Verbe qui s'est incarné, qui est devenu homme. Combien d'entre nous, nous sentons encore avec tout notre être la réalité du fait que Dieu s'est fait homme? Combien d'entre nous, nous croyons encore que Dieu s'est fait homme et qu'il a vécu sur la terre et que les apôtres l'ont vu et qu'ils ont vu sa gloire et qu'ils ont partagé l'expérience de Dieu? Combien d'entre nous? Ressuscitez en vous cette fois de la réalité de présence du Christ sur la terre, de présence de Dieu, vrai Dieu, incarné, fait homme. Pour que nous, les hommes, deviendrons des dieux, comme dit la sainte Athanase le Grand. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est très beau ça. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu par grâce, bien sûr, pas par nature, parce qu'on ne peut pas changer notre nature. Mais on devient semblable avec Dieu. Quel Dieu? Dieu qui a fait tout, Dieu qui était avant tous les siècles, Dieu par qui a été fait tout, Dieu qui protège ce monde, malgré, je dis, toutes les conneries que les gens osent faire dans le monde de Dieu, à partir des guerres, à partir de toutes les choses sales qu'on ne peut pas le faire responsable, Dieu, pour tout ça. C'est l'homme qui fait du mal. C'est l'homme lui-même qui fait du mal. Personne ne peut pas l'arrêter. Si en Syrie se passe les choses qui se passent, c'est pas Dieu qui les fait, c'est l'homme qui envoie des bombes dans les familles, qui tue des enfants, qui fait n'importe pas quoi. C'est pas Dieu qui fait ça. Mais en même temps, Dieu tient ce monde et il espère, j'ose à dire le pauvre, j'ose à dire, il espère la conversion de l'homme. La conversion de l'homme. Parce que c'est lui qui tient tout dans ses mains. C'est lui qui existe avant tous les siècles et c'est lui qui a eu dans sa pensée tout, inclus nous, inclus notre présence ici, inclus cette paroisse par exemple, inclus l'Eucharistie d'aujourd'hui. Tout c'est dans la sagesse de Dieu, tout se développe dans la sagesse de Dieu. Tout se développe dans la sagesse de Dieu et le mystère est plus grand encore, est dans la liberté de l'homme. La liberté de l'homme et la sagesse de Dieu, ensemble, font la vie éternelle. Ensemble, vont vers la connaissance de celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc voilà, Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Dans les temps derniers, il nous a parlé par son Fils qui est vrai Dieu et nous avons vu sa gloire. Et nous verrons encore sa gloire. Et voilà comme le Saint Père, il parle de la vision de la gloire de Dieu. Quand je vous ai parlé plusieurs fois de la lumière incréée, par exemple, dont Saint Grégoire parle, c'est ça, la lumière incréée. Entrer en relation intime avec Dieu. On n'est pas digne, nous, les pécheurs, mais au moins croyons les témoignages des autres. Dit Saint Grégoire Palamas aussi, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas des expériences mystiques. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pas une chose pour tout le monde. Mais inquiétez-vous dans le moment où vous allez vous douter des expériences des autres. Méfiez-vous du moment où vous allez ne plus croire aux expériences de saints. Si vous n'avez pas l'expérience, c'est pas grave. Mais au moins, faites confiance aux autres. Penchez-vous sur l'expérience des autres. Essayez d'oser un peu, de voir comment est-ce que c'est passé. Comment est-ce que les saints, pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de cette expérience, pourquoi est-ce qu'ils ont cette relation que je ne peux pas avoir. Mettez-vous des questions, mais pas en vous doutant de l'expérience, de quelque chose qui est expérience, qui est une réalité. Ce n'est pas une philosophie, une théorie, c'est une réalité, c'est ça la différence. Moi, je fais des théories ici, devant vous, mais les saints, ils ont vécu. C'est ça la grande différence entre moi qui vous parle et quelqu'un qui a l'expérience. Qu'est-ce qu'il disait l'apôtre aujourd'hui? Il y a beaucoup, beaucoup des enseignants parmi vous, et très peu des pères. Très, très, très peu des pères. Nous, les prêtres, on peut beaucoup vous parler. On peut beaucoup faire des catéchèses. Parfois, ça peut servir à rien. Si le prêtre lui-même ne sanctifie pas sa vie, si le fidèle lui-même ne sanctifie pas sa vie, on peut parler, on fait des théories, on fait des théologies, théologies de bureau, si vous voulez. Mais si on vive les choses, si on touche la gloire de Dieu, si on touche la réalité incréée, si on plonge dans la Bible, par exemple, si on se demande pourquoi Dieu a parlé avec Moïse comme avec un ami, et pourquoi il a parlé avec Moïse comme avec un ami, voilà, déjà il n'y a plus la théorie. Déjà il y a la pratique. Il y a, on plonge, effectivement, on plonge dans la réalité de l'incarnation du Christ. Je vous conseille chaque fois, quand vous vous réveillez, pensez au credo. Et pensez surtout à la partie centrale du credo. Je crois aussi dans un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. Qui s'est fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. Pensez chaque matin un peu à ça. Qui s'est fait homme pour qui? Pas pour Saint-Antoine, pas pour Saint-Grégoire Palamas, pas seulement pour Saint-Antoine, pas seulement pour Saint-Grégoire Palamas, pas seulement pour Saint-Fautini, pas seulement... C'est fait homme pour nous, les hommes, c'est-à-dire pour tous, pour moi aussi, pour moi inclus, pour moi inclus. Et vous allez voir que votre perspective, c'est autre perspective que celle que vous avez avant. Gardez les feuilles que je vous ai données et faites l'exercice de lire un peu les versets, de relire les versets que je vous ai donnés. C'est extraordinaire de toucher la parole du Seigneur. C'est extraordinaire. On fait très peu l'exercice de toucher la parole du Seigneur. Pour ça, et avec ça je vais finir, pour ça dans l'Église orthodoxe, nous avons cette... C'est pas respect, c'est une parole que j'aime pas, c'est un mot que j'aime pas, mais quand même, disons-le, c'est un respect pour l'Évangile. C'est un respect pour l'Évangile. Voilà, on embellisse l'Évangile. Pourquoi on embellisse l'Évangile quand on peut très bien lire sur les feuilles de papier? Très bien, on peut faire. Mais parce qu'il y a quelque chose, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans ce livre qui est la parole du Christ. Et pour ça, nous sortons avec l'Évangile dans la liturgie. Vous avez vu que nous sortons chaque fois avec la liturgie, avec deux cierges ou un cierge avant, et le prêtre sort avec l'Évangile. C'est presque un objet d'adoration, presque, l'Évangile. Le prêtre, il embrasse chaque fois l'Évangile, quand il commence la liturgie, quand il sort avec les dons au milieu de l'Église, à la fin de la liturgie, il embrasse toujours l'Évangile. Au mariage, les époux, il embrasse l'Évangile. Au baptême, le candidat au baptême, il embrasse l'Évangile. L'Évangile, il a un rôle très important dans le culte orthodoxe, une partie centrale dans le culte orthodoxe, une partie qui ne peut pas être ignorée, et je crois que ce n'est pas la peine d'insister sur ça, vous comprenez très bien pourquoi est-ce qu'on a cet respect pour l'Évangile et pour la parole de Dieu en soi-même. Je m'arrête ici en demandant le Seigneur de nous illuminer à tous la compréhension spirituelle de ces paroles, et espérons que, comme Dieu a parlé au prophète, comme à des amis, il nous va parler peut-être à nous aussi comme à des amis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,